Sans pitié, le ref clown nous donne 2 minutes. Sur la bande, on se relève malgré toutes les chutes. Le pourparler, c'est devenu une habitude. Sur la bande, c'est là que le sport, on en discute. Sur la bande, podcast et blog, on touche à tous les rayons. Le sport fait rire, danser, pleurer les nations. Dans l'air, sens-tu le climat de la compétition? On est déjà prêt pour la 4e saison. De nouveaux invités à tous les lundis. Avec les best Sébastien et Zachary. Sur la bande, podcast et blog, on touche à tous les rayons. Le sport fait rire, danser, pleurer les nations. Dans l'air, sens-tu le climat de la compétition? On est déjà prêt pour la 4e saison. De nouveaux invités à tous les lundis. Avec les best Sébastien et Zachary. Des anecdotes, les joueurs sont tous réunis. Faut partager, on veut entendre votre avis. Avec les gars, on parle de mise en échec. C'est le retour, le jeu 16 ans sur la gazette. Tout un parcours, des gros segments sur nos athlètes. Les 3 étoiles de la semaine me font tourner la tête. Tire de barrage, on shoot des questions en rafale. Des vrais sportifs qui font des entrées remarquables. On aime parler de tout, chaque journée est spéciale. Quand on est là pour se rassembler autour de la table.
Salut Zach.
Salut Sébastien, est-ce qu'on m'entend bien?
Ouais, je t'entends bien.
Parfait. Parce qu'il y a un petit problème, vous voyez, l'angle de caméra changé. Je suis sur mon téléphone. Mon ordi ne veut rien savoir de StreamYard aujourd'hui.
T'es passé de belles vacances dans le sud?
Oh oui. C'était cool, mais je suis pas trop bronzé. Hein?
Non, ça va être la. Merci encore à Jules de t'avoir remplacé. C'était un épisode très intéressant. Cette semaine, on reçoit Kevin Poulin, l'ancien gardien de la LHL LNH. On va y en parler. On va faire le tour de sa carrière. Merci encore aux 3 commanditaires qui rendent cette saison 4 possible. On a déjà fêté, je pense, les 3 ans. C'était moi aussi les 3 ans du podcast.
Ouais. Ouais, ça doit avoir commencé en janvier,
On a commencé avec ton père en plus. Fait que, je pense qu'on peut starter. On avait-tu la question? On pourrait aller avec la course au Calder. D'après vous, qui va remporter le trophée Calder cette saison?
C'est un peu facile, pas tant, mais j'ai vu un TikTok genre qui montrait que l'année passée, Connor Bedard avait comme moins, je pense qu'il était à moins 44, puis il a quand même gagné. Fait honnêtement, j'ai peur que ce soit pas de ça.
Ouais, il y a des bonnes chances, ça c'est lui pareil. Fait qu'on peut starter avec la mise au jeu de la semaine.
La mise au jeu est une présentation du nouveau site de surlabande.com. Vous pouvez retrouver tous nos articles dans la section Nos articles, tous les articles que nous écrivons sur la LHMQ ou peu importe. Nos podcasts sont directement mis là-dessus après chacun des podcasts et aussi nous avons une section Concur. Donc, bonne mise au jeu tout le monde. Bon segment.
Salut Kevin.
Salut, ça va bien, boys?
Ça va bien, toi?
Très bien, toi.
Mais oui, ben.
Yes, on peut-tu commencer par une petite présentation de toi pour ceux qui ne connaissent pas?
Oui. Fait que Kim Poulin, récemment retraité du hockey professionnel. J'ai joué 13 saisons dans professionnel, mais plus connu pour les Islanders pendant 5 ans. Puis j'ai fini les 2 dernières années là, avec le Rocket de Laval.
Yes.
Fait que, dites-vous, tous nos auditeurs, c'est le plus proche possible des Canadiens qu'on est depuis le début du podcast.
Yes. On a reçu 2 autres joueurs qui ont joué dans la LNH, mais on vient de l'Abitibi, fait qu'on a reçu Jérémy Lauzon et Nicolas Roy. Fait que, on est un podcast 100% Abitibi, mais là, Zach est déménagé à Trois-Rivières. Fait que, ça a un peu changé.
Ah, bon. Hein? Il s'occupe des Lions maintenant.
Ouais, ben Lyon, Shawinigan un peu aussi.
OK.
Ouais.
C'est bon.
On se promène, c'est plus proche ici qu'en Abitibi, finalement.
Ouais, t'as plus d'hockey à voir aussi. Plus de choix. Fait qu'on va commencer tout de suite avec... On va faire le tour dans la carrière dans le segment Autour du filet.
Ce segment d'Autour du filet est une présentation de Boutin Performance. Si l'entretien de votre véhicule vous tient à cœur, en Abitibi, c'est le garage où aller. 1150 rue de l'Escale pour ce qui est de Val-d'Or, le meilleur garage. Bon segment.
Tour du filet. Yes, autour du filet. On va parler, tu as été repêché par les Tigres en première ronde, troisième au total. T'avais-tu des bonnes discussions avec eux au moment du draft?
Oui, c'était dans le fond, c'était entre les Tigres puis Rimouski. Je savais qu'il y avait un grand intérêt aussi là, à Rimouski.
OK.
Je savais que les Tigres ils voulaient repêcher un gardien de but. C'est sûr que troisième au total, c'est quand même pour un gardien de but, c'est très élevé. Mais mon année, Rimouski avait un choix de deux, je pense de deux, de cinq puis de sept. Fait que je pensais peut-être plus m'aligner là. Mais les deux équipes étaient vraiment intéressées. Là. Fait que quand j'étais au draft, là, qui était à PEI, puis troisième au total, c'était les Tigres. J'attendais un peu, mais quelqu'un dit mon nom, j'étais très surpris et très content là, en même temps.
Ça t'a-tu mis un peu de pression d'être le troisième choix au total?
Non, vraiment pas. Moi, j'étais troisième au total, puis j'étais arrivé au camp, puis je parlais, je me souviens, je parlais au rep de Reebok dans le temps. Puis il parlait d'équipement, puis tu sais, qu'est-ce que tu veux cette année? Puis là, j'étais comme, mais là, je sais pas si je vais faire l'équipe. Je suis vraiment naïf, là, genre comme, c'était vraiment, je ben là, je sais pas si je vais faire l'équipe, on verra. Puis il m'a regardé comme, Kev, commande ton gear, ça va être correct. J'étais comme, ah, ben ok, je vais prendre ça, puis ça. Mais moi, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment ça. Je jouais dans la catégorie que j'étais, puis je regardais pas en avant. T'sais, je regardais pas quand j'étais. Puis oui, je regardais pas Bantam. Quand j'étais Bantam, je regardais pas vraiment Midget, puis ainsi de suite. Le junior majeur, j'étais pour vrai. Je connaissais ça un petit peu quand j'étais plus jeune. J'avais déjà été voir le Rocket de Montréal dans le temps. Mais après ça, j'avais comme plus vraiment entendu parler de ça. Jusqu'à temps que ça soit mon tour de OK, repêchage, j'ai comme dans un an ou deux. Puis c'est le chemin à prendre par la suite. J'ai comme, ah, OK. Fait que, tu sais, les équipes, je savais pas, ils étaient situés où, ou qui jouait, à part, mettons, Sidney Crosby, qui était vraiment beaucoup médiatisé. Tu sais, je connaissais absolument rien.
C'était par désintérêt ou juste que tu restais dans ton petit monde et que tu voulais pas te projeter plus loin?
C'était vraiment juste être dans mon monde. Je faisais, tu sais, je m'amusais, je jouais l'année, j'étais avec les boys de cette équipe-là. Puis c'était vraiment, je focusais. On dit le jour. J'étais tellement comme ça quand j'étais plus jeune, là, comme, et je faisais mes pratiques, je faisais mes games. Tu sais, quand t'es jeune, t'es un petit peu plus naïf, je pense aussi. Fait que pour moi, tu sais, oui, je jouais dans le sol, puis je rêvais de gagner la Coupe Stanley au mini-stick dans le sol, puis on s'inventait des vies, puis des conquérir la Coupe. Mais réalistiquement, quand j'étais moi sur la glace pour les games, je pensais aucunement à ça.
Ok. Je sais pas si tu l'as dit, puis j'ai pas suivi, mais tu viens de où?
De la Rive-Sud de Montréal.
Ok, fait que un coup parti à Trois, voyons pas Trois-Rivières, à Victoriaville, tu devais être en pension.
Oui.
C'était comment être en pension assez jeune quand même?
C'était vraiment possible parce que moi, dans le fond, à 14 ans, deuxième année de Bantam, j'avais été en Saskatchewan, à Notre-Dame.
Oh,
Fait que
ok.
j'étais déjà parti un an, pas mal plus loin que Vito. Là, on s'entend que une heure et demie d'auto comparativement à 5 heures d'avion, une heure un petit peu plus près. Fait que ça m'a vraiment donné une maturité que j'avais, que, mettons, je voyais d'autres joueurs qui venaient de déménager de chez eux. J'étais comme, OK, moi, ça fait 2 ans que j'ai vécu ça, puis j'étais déjà ailleurs, là. J'étais déjà comme, tu sais, Vito, c'est juste à côté pour moi, là.
Ok. Ben d'abord, un coup que tu étais en Saskatchewan, tu étais encore plus jeune, tu sais, là-bas, combien de temps ça t'a pris pour bien t'adapter, puis comment ça a été? Puis c'est tout en anglais aussi, je connais
Tout
pas
en
ton niveau
anglais,
d'anglais, là.
ouais. Écoute, mon niveau d'anglais avant de partir, là, je faisais pas la distinction entre 12 et 20 là encore en anglais. C'était quand même assez basic. Mes parents parlent pas anglais. Ils l'ont appris parce que j'ai joué à New York. Fait qu'ils ont, à force d'y aller, ils ont pris un peu des mots. Mais ça a quand même été rough, là, le langage, parce que quand tu arrives là-bas, c'est pas juste un cours d'anglais, puis le reste en français, c'est tes mathématiques sont en anglais, physique, histoire, art plastique, tout est en anglais. Fait. Au début, ça a été tough, mais à la fin de l'année, ça avait bien été. C'était une autre mentalité aussi là-bas. C'était vraiment, c'est strict, là. Tu marches droit, faut que ta chambre soit bien rangée, faut que ça soit propre. C'est vraiment, sinon, ben, Après la deuxième fois qu'ils t'avertissent, ben, c'est un workout à 5 heures le matin, moins 20 dehors, puis on s'en fout. Là. C'est comme old school comme mentalité. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais quand moi j'étais là, c'était vraiment old school. Le dimanche, tu vas à l'église, tu n'as pas le droit de skipper rien. Deux fois par année, tu allais travailler à la cafétéria. Tu lavais les assiettes, tu ramassais les tables. Tu sais, comme je vous dis, quand je suis revenu, j'étais comme. J'étais pas mal indépendant, puis en pension à Vito. Là, Vito Rivesus, là, c'est quand même assez proche. Là.
C'était quasiment des vacances rendues là.
Ben oui et non, mais non, c'est ça. Je pense que la Saskatchewan m'a vraiment préparé à ma carrière junior et professionnelle par la suite.
Parfait. Fait que dans le fond, tu as passé les 4 saisons de ta carrière à Victo. Comment c'est pour un gardien, mettons, de ne pas se faire échanger, que l'équipe a toujours confiance en toi pour ces 4 saisons-là? Puis comment tu as aimé ton expérience dans la GMQ?
J'ai vraiment adoré. Premièrement, Vito, comme j'ai dit, c'était proche de chez moi. Fait que mes amis, ma famille, ils venaient quand même assez régulièrement. Quand j'avais des journées de congé, je pouvais aussi aller retourner. 4 ans à la même place pour un gardien de but, j'aimais ça. J'ai vécu ma première année, on y allait un petit peu pour aller plus loin dans les playoffs. Ça a été le fun, mais les deux années par la suite, on avait des équipes un petit peu plus faibles, en reconstruction, jeunes. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de lancers, mais en même temps, je pense que c'est ça qui m'a développé encore plus. J'avais entre 35 et 45 shots par game. C'est beaucoup de rubber puis de pratique. Fait que ça a été le fun. Puis ma dernière année, on a fait un push pour aller loin dans les séries. Mm-hmm. Puis on avait perdu contre St. John's en demi-finale.
Okay. Justement, ta dernière saison junior, tu as pu évoluer avec des jeunes, Philippe Dano et Yannick Gourde. Je pense que c'était leur première saison ou deuxième saison dans la GMQ. Comment ils étaient à un si jeune âge, ces deux joueurs?
Phil Dano, il est arrivé à 16 ans. Dans le fond, mon année avec lui, c'était à 16 ans. Puis, je l'ai vu vraiment 16. En tout cas, je ne sais plus si j'ai une ou deux années. Puis, je me souviens qu'il est arrivé une année après l'été. Mm-hmm. Puis, il avait pris comme 5-6 pouces d'une shot. Quand même tard. Tu sais, quand tu as 16-17 ans, c'est rare de prendre autant de grandeur. Puis aussi, son lancer, quand il est arrivé, il était plus petit, plus frêle. Il avait pas un super bon lancer, mais c'était tout le temps lui qui venait faire les pratiques de gardien de but. Okay. Tous les réchauffements de gardien de but, c'est lui qui faisait les lancers. Puis à force de faire ça, je pense que ça l'a aidé pour développer son lancer. Mm-hmm. Parce que je me souviens de ses lancers au début, puis j'étais comme ouf. Ça va être rough, là, mais par la suite, il a vraiment évolué. Puis moi, je suis parti, lui est resté là. Puis j'ai suivi un petit peu l'équipe, puis il a vraiment pris un step. On l'a vu, là, il a pris un step, il a joué à Montréal. Après Chicago, là, il était à Montréal, puis là, il est parti à LA, puis c'est rendu un steady. Même aussi Yannick Gould, junior, il était un petit peu plus vieux. Un gabarit quand même assez petit. Ça commençait là, tu sais, dans ce temps-là, c'était encore des grands joueurs, des gros joueurs qui préféraient. Puis on commençait à en avoir des petits là. Je me souviens, il y avait Paul Byron à Gatineau, l'autre à Ottawa là, il joue en ce moment.
Matterson?
Non. Il jouait à Gatineau. Il était plus petit mais très bon. Ok. Au début, fait que là, je pense que ça a comme c'est là que ça a commencé que les plus petits joueurs, ils commençaient à rentrer un petit peu plus, puis qu'ils pouvaient jouer là, dans la ligue. Okay. Avoir du succès, dans le fond.
Puis Philippe Dano qui fait les shots sur les gardiens, c'est-tu parce qu'il était sûr qu'il n'allait pas vous blesser à cause de son lancer?
Non, je pense que c'était vu que c'était un choix de première ronde, il voulait développer son lancer, en fait. Fait que la meilleure façon de le développer, c'est répétition, puis. Je me souviens, il venait durant l'été, c'est lui qui shootait. Il venait durant la saison, avant la pratique, c'est lui qui shootait. Après la pratique, si on voulait faire de l'over, il venait shooter. Fait que c'est vraiment ça qu'il voulait. Il voulait vraiment développer son lancer. Il avait vu qu'il y avait une intelligence au niveau hockey, mais il voulait développer son lancer aussi. Hein.
OK, fait que c'était plus penché vers sa pratique à lui que ta pratique à toi, finalement.
Ben, ma pratique l'a amélioré, lui, dans sa game.
OK.
Il faut voir ça comme ça, je pense.
Parfait. Fait que ton repêchage, LNH, ça a été en 2008. Tu as été repêché 5e ronde, 126e au total par les Islanders de New York. Premièrement, comment tu as vécu l'expérience? Ça arrive juste une fois dans une vie, la plupart du temps, ça arrive juste une fois, se faire repêcher dans la Ligue nationale. Puis tes discussions avec toutes les équipes, comment ça a été? 5e ronde, tu dois avoir parlé à beaucoup d'équipes quand même.
Ouais, j'ai été projeté première ronde ma première année. Puis ça a reculé. Comme j'ai dit, la deuxième année, on avait une équipe, une saison un petit peu plus rough. Fait que j'ai descendu beaucoup dans le repêchage. Fait que, mais j'ai parlé à beaucoup d'équipes. Je pense que pas à toutes les équipes, mais pas loin. J'ai été au Combine à Toronto. Puis là, c'est là-bas, tu rencontres beaucoup d'équipes. Là, t'as comme t'as un horaire, puis 10h15, t'as cette équipe-là, 10h30, t'as cette équipe-là. Tu sais, c'est comme bang, bang, bang pendant une journée. Je me souviens, je sais que l'Islanders, ça avait vraiment bien été, mais eux, ils faisaient faire des tests avec des choix de réponses.
Okay.
Puis ils m'avaient fait passer 3 fois ce genre d'examen-là. Puis c'est des questions comme... Oui, ça avait rapport un petit peu au hockey, mais aussi sur... dans la vie de tous les jours, s'il arrive un feu, c'était vraiment psychologique leur approche. Puis ils ont aimé mes réponses, puis parce que je l'ai passé 3 fois, puis là à chaque fois, la première fois j'étais comme je l'ai fait, puis oh my god, c'était long quand même. La deuxième fois encore, la troisième fois j'étais bien, c'est sûr, je sais pas. D'après moi ils ont pas aimé mes réponses les deux premières, ils ont juste vérifié. Mais non, je pense que ça avait bien été. Je me souviens que les Devils, je pense que les Devils, ça avait vraiment bien été. Je me souviens plus pourquoi, parce qu'on s'entend, ça fait presque fait longtemps, mais je me souviens que j'étais sorti des Devils, puis là, je pense que c'était Lou Lamoriello qui était là dans le temps.
Il était
bon.
Fait que, ouais, il posait des questions, puis j'étais comme, OK, bon, parfait. Merci quand même.
Puis pour l'expérience Islanders, est-ce que dans la ville de New York, ça paraît, tu sais, que les Rangers sont plus populaires, ils ont une plus belle histoire, puis tout ça, ou on le sent pas tant?
Mettons, à Manhattan, oui. Tu sais, Manhattan, les Rangers, leur place, c'est Manhattan. Les Islanders, c'est plus en banlieue à Long Island. Fait que c'est comme à 45 minutes, une heure de la ville.
OK.
Je sais pas comment vous expliquer ça, mettons, au niveau Montréal et une ville qui est comme à 1 heure. C'est un peu comme Montréal-Québec, mais Québec, c'est comme vraiment... c'est tranquille, là. C'est des familles qui habitent là. T'arrives là, c'est tranquille. À New York, tu vois, le Madison Square Garden, c'est iconique, mais c'est les Rangers qui jouent là. Nous, on jouait à Uniondale dans le temps. Là, ils ont changé, je pense, comme 2-3 fois de spot. J'ai vu leur nouvelle arena. Ils sont un petit peu plus proches de la ville. Puis leur setup est quand même incroyable, là. De qu'est-ce que moi, j'ai vu. Tu sais, c'était la fin de... Comme dire, un peu la fin du forum, contrairement au Centre Bell. Tu sais, quand tu fais le switch... Il y avait beaucoup d'histoires dans l'ancienne arena. T'sais, ils ont gagné leur coupe cette année là-bas. Puis tu sens qu'il y a de l'histoire, mais il était prêt à faire le saut là, pour une nouvelle amphithéâtre.
Tu as fait tes débuts professionnels tout de suite après tes 4 saisons avec Victo. Lors de ta première saison, tu as joué 10 parties avec les Islanders. C'est quoi qui a été ta plus grosse adaptation entre la AHL et la NHL?
La première année... Je suis arrivé dans l'Américaine, puis j'ai joué. On était 3 gardiens de but, puis comment que ça marchait? C'était quand même un orthodoxe. Là. On était 3 gardiens de but, puis on faisait une rotation.
Okay.
Un qui joue, une game sur le banc, une game des estrades. Puis on roulait comme ça. Puis on roulait. Puis je pense que ça m'a donné un peu plus de temps pour m'adapter au niveau professionnel que garocher tout de suite, puis tu joues, puis tu joues. J'ai eu plus de pratique, je pense que j'ai vu plus de games. J'ai pu analyser d'en haut la game un petit peu. Fait que quand je suis arrivé puis que je jouais, j'étais pas fatigué non plus. On s'entend que des fois, l'horaire, surtout dans les américaines, ça peut quand même être tough. Là. Dans le temps, on jouait les mercredis, vendredis, samedi, dimanche. Fait que quand tu es un ou deux gardiens de but, ça peut paraître beaucoup, mais à trois, on était capable quand même d'être frais et dispo pour nos matchs. Ça m'avait aidé, là, je pense. Puis quand je suis arrivé dans la nationale, c'était plus c'est ma chance, puis go. T'sais, comme donne tout qu'est-ce que t'as, puis whatever happen, happen.
Je pense avoir vu sur une vidéo TikTok que malheureusement, tu as été blessé à la première saison, c'est ça? Avec les Islanders?
Ouais, fait que là, dans le fond, j'étais rendu avec la Islanders. Ben, je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Je suis dans la ligne américaine. Il y a Dwayne Worlson, puis Di Pietro, qui est à New York. Di Pietro, beaucoup de blessures, mais là, cette année-là, ça allait super bien. Aucune blessure, ça va bien. L'équipe décide d'échanger Dwayne Worlson à Tampa Bay. Puis, il rappelle le vétéran qui était dans la ligne américaine. Fait que là, nous, on tombait à deux gardiens de but. Fait que là, une semaine et demie, je pense, plus tard ou 2 semaines, boum, il se blesse. Fait que là, il retourne sur les injury list. Il me rappelle moi. Puis là, après ça, le vétéran que moi je joue avec à Bridgeport, il a joué mon premier match, c'était à Edmonton. Puis, premier lancé, l'autre équipe score. Deuxième lancé, arrêt, rebound, score. Puis là, le coach, il m'envoie directement. Il dit, OK, va-t'en dans le net. Moi, je suis comme, OK, je viens juste d'arriver. Je pense que j'avais même pas regardé la game encore. Je pense que je regardais juste les estrades. Puis je suis comme, ah, ben ouais, c'était l'ancienne arena à Edmonton, en plus. J'étais comme, ça faisait même pas 5 minutes que la game était commencée, là. Première game, je me rendais même pas compte, j'étais où. J'embarque. Ça a super bien été. On a perdu 2-1, pas laissé de but. Fait que là, après ça, prochain match, on vole à Colorado. Le coach, il me dit, OK, start. Puis ça a été mon premier start. Ma première game à Edmonton, puis mon premier start à Colorado, qui a été ma première victoire aussi en même temps.
Ok, top. Ça avait bien été ou?
Oui, on a gagné 4-3 en overtime. Puis en plus, Colorado, je sais pas si vous savez, mais l'altitude est quand même assez haute. Fait que c'était une difficulté un peu plus. Mais je me souviens que Milan Nedjuk qui avait scoré 2 buts cette game-là. Puis c'était un gars que je regardais quand j'étais jeune, me jouer. Puis c'est le premier gars qui m'a scoré un but, c'était Milan Nedjuk en avant du net, un rebound, open garbage, open net. J'étais fâché, mais en même temps, j'étais comme, qu'est-ce, Milan Nedjuk qui m'a dit de me scorer. Mais par la suite, on avait gagné en overtime. Après ça, mes games, ça allait super bien. Je jouais beaucoup. L'autre gardien de but s'est blessé aussi. Fait que j'avais le net. Puis à un moment donné, on joue contre Toronto. Puis 2 jours plus tard, on jouait à Montréal. Puis il m'avait déjà dit, on joue dans 2 jours à Montréal. Tu joues Toronto-Montréal. Première game, ça va être ta première game à Montréal. J'étais tout excité. Je m'en vais, je joue à Toronto. Je joue contre Toronto, mais à New York. Dans le warm-up, je suis en train de faire mes tirs. Puis j'arrive pour changer. Puis le gars-là, il regardait pas. Puis un gars qui s'en venait. Fait que j'ai comme arrêté puis essayé de faire l'arrêt. Puis mon genou, j'ai comme plié d'une façon quand même bizarre parce que j'ai essayé de faire l'arrêt parce que. Puis je me suis disloqué le genou. Fait que là, je suis tombé à terre. C'était ma deuxième fois. Ça m'avait arrivé junior aussi. Fait que là, opération genou. J'étais out tout le reste de l'année, là.
Est-ce que tu as eu une autre chance de jouer à Montréal ou c'était la...
Oui, j'ai joué, je pense, 2 ou 3 ans plus tard. J'ai joué contre Montréal à Montréal. Puis j'avais joué aussi contre Montréal à New York.
OK.
Fait que, ouais, non, ça, au moins, je l'ai vécu, mais à retardement. Puis c'est drôle parce que ça vient de me faire penser à quelque chose, à une autre histoire. Je pense que un an ou deux après ça, j'étais à New York. Puis on s'en allait faire le voyage avec les pères. Fait que là, j'appelle mon père. Je dis, OK, là, on s'en va sur le voyage des pères, mais c'était à Montréal. Fait que là, lui, il fallait qu'il parte, mettons, de Montréal pour aller à New York, pour retourner à Montréal, comme en avion. Mais même pas 24 heures avant qu'on parte, il me dit, ah, je suis désolé, on te renvoie dans la ligne américaine.
Non.
Oh.
Et là, j'étais comme, genre, tu me niaises, j'ai tout fait ça, je l'ai appelé, il s'en venait. Mais bon, ouais, ça a été quelque chose que, c'est vrai que c'est une autre fois que j'étais supposé jouer contre Montréal, puis ça avait coupé, coupé short, mettons.
Mais pour vrai, c'est une grosse, ben pas une grosse chance, mais une chance justement, c'était pas tes deux seules fois que tu aurais pu jouer parce que ça aurait été plate en tabarouette, là.
Ouais, ouais, ça avait été mes deux seules chances, je l'avais eu sur le cœur longtemps après moi, mais
Ouais, c'est
en
sûr.
même temps, c'est la business, puis c'était dur de comprendre quand t'es jeune, mais c'est comme là, je suis plus vieux, puis c'est une business, là, comme dans n'importe quoi.
Parce qu'on va se dire, le premier rêve quand tu es un jeune joueur de hockey, c'est de jouer pour les Canadiens. Mais si malheureusement tu ne peux pas jouer pour les Canadiens, le deuxième, ça doit être de jouer au Centre Bell, pareil.
Ouais, je pense que ouais, c'est un rêve de jouer à Montréal, mais surtout pour Montréal, parce qu'on
Ouais.
s'entend qu'on n'a pas la même
Non.
accueil, je te
Oh
dirais, là,
non.
quand tu joues
Ouais.
contre Montréal à Montréal, ça je l'ai vécu quand je jouais pour Islanders, mais non, c'est le fun parce que tu joues devant ta famille, tes amis, tu sais, des fois, ça dépend t'es où, moi je suis à New York, c'était pas si pire. Les gens venaient me voir de temps en temps, mais tu peux avoir plus de gens qui soient là pour venir te voir en vrai. Des fois, c'est des gens qui t'ont pas vu depuis junior ou même avant ça. Fait que c'était le fun de pouvoir le faire. Puis je me souviens, je pense qu'on avait perdu 3-2. Puis après la game, je m'en foutais totalement. Je voulais juste aller voir ma famille, les voir. Puis j'étais juste content que c'était comme un beau moment de ma carrière pour moi puis ma famille.
Fait que là, pour faire un wrap-up un peu de tes 5 saisons avec les Islanders, comment t'as aimé ton passage là-bas, l'expérience Ligue nationale à New York finalement?
Ben, c'était le fun. T'sais, on était vraiment dans une reconstruction quand moi j'étais là. Fait que, t'sais, c'était pas super glorieux. T'sais, faire les playoffs, on était quand même loin d'être là. On les a fait une année, puis ça, je m'en souviens, c'était durant le lockout. On avait joué contre Pittsburgh, puis ça avait quand même été. T'sais, on jouait dans la Ligue nationale durant la saison régulière, c'est une chose, mais jouer dans la Ligue nationale durant les playoffs, c'est. T'sais, on parlait de coche tantôt, là, ligue, mettons junior à Ligue américaine à NHL, mais NHL puis NHL Playoff, ça step encore plus. Puis les partisans, ils sont, t'sais, c'est loud. Puis on parlait du Colisée où ce que je jouais avant aux Islanders. T'sais, on a eu des années quand même assez creuses, fait que les partisans n'étaient pas tout le temps là. Mais quand on a joué dans les playoffs, c'était jam-pack. Puis c'est une arena qui était un petit peu plus petite, puis le toit est plus bas. Fait que quand il y a du bruit puis ça shake, on était sur le banc puis on le voyait. Fait que ça a été un beau moment que je me souviens malgré les années de reconstruction, disons.
Même à Pittsburgh, il devait avoir du bruit pas mal, là. Surtout en série, c'est l'ancienne arena, je
Ouais.
pense. Je
Non,
pense à la nouvelle.
c'est la nouvelle, il venait juste
OK,
de
il
la
met juste.
construire. Ouais,
OK.
mais le Mellon Arena est encore. Je me souviens, on prenait le boss puis. Les joueurs qui étaient plus vieux, ils disaient aux jeunes des petites histoires. On jouait là avant, c'était pas pareil. Maintenant, c'est encore plus beau, un peu comme à New York, là, avec la nouvelle arena.
Okay. Ça, justement, tu as joué 5 saisons avec les Islanders, tu as rencontré John Tavares, comment qui était comme capitaine puis comme leader dans la chambre?
C'est un gars qui est quand même assez tranquille. Pas un gars qui dit beaucoup, tu sais, il est pas all over, il fait ses affaires, il pratique, à chaque pratique, il va donner 70%, chaque lancer, il veut scorer. Puis je me souviens parce que c'était le meilleur dans l'équipe. Fait que moi, mon but, c'était je veux pas score. Puis on avait comme un. Tu sais, les deux, on était super compétitifs. Puis il est vraiment compétitif. Puis à chaque fois qu'il ne scorait pas, et, tu sais, tu le voyais, ça le frustrait. Là. C'était pas, il n'était pas sur la glace juste pour flow drill une couple de shots sur le goaler. Puis il s'en allait. À chaque jour, il travaillait. À chaque jour, il voulait être meilleur. Puis on s'entend qu'à New York, dans ses débuts, il n'était pas super entouré, mais il est devenu un leader quand même important à un jeune âge là-bas. Puis, même encore là, il est rendu un peu plus vieux à Toronto, mais il était quand même encore un leader dans un gros marché à Toronto. Faut quand même, il ne donne pas le capitaine à n'importe qui, disons.
Non, c'est sûr.
Retourner porter gilet d'Islanders au Madison Square Garden la fin de semaine passée, ça a dû être tout un feeling de revoir ce chandail-là, puis grosse aréna de Ligue nationale.
Oui, j'avais été l'année passée, mais c'était dans un aréna un peu plus de quartier dans la Long Island, puis on avait joué contre les Rangers. Mais qu'est-ce qui est le fun, dans le fond, c'est de retourner là-bas, tu revois le staff, le staff que moi j'étais là, ils sont encore là. Pas toutes, mais il y a quand même des visages familiers. Il y a des gars avec qui j'ai joué aussi, que là, ils ont pris leur retraite, que j'ai joué avec. Il y a des gars qui étaient avant mon temps, comme, mettons, Pierre Turgeon. T'sais, j'ai jamais joué avec, mais là, ça fait 2 ans que je joue avec, puis on se parle, puis comment ça va, comment va ta famille, puis je dirais que c'est comme un club select aussi qui, tu sais, ça nous donne un sentiment d'appartenance d'avoir joué pour cette équipe-là. Puis même si on n'a pas joué dans les mêmes années, on devient amis automatiquement. Puis c'est ça qui est le fun. Puis aussi jouer contre des anciens rivaux que on s'entend que c'est pas mal moins intense que dans le temps. Fait que, tu sais, entre les deux période, moi puis Lundqvist, on se parlait, puis on était comment ça va, et quand on jouait dans le national, on faisait nos affaires, puis on voulait gagner, je te garantis qu'on veut encore gagner, parce que plus que la game avançait, plus que ça jouait intense, là, mais c'était le fun aussi, parce que c'était le Madison Square Garden, c'est une des arénas les plus iconiques à jouer. Je me souviens encore quand je jouais là-bas, puis que j'étais avec les Islanders, puis ça fait déjà plus que 10 ans. C'est tout un sentiment là, de jouer là-bas, puis tu as des artistes qui sont là pour venir te voir, tu as des movie stars qui étaient là pour venir nous voir jouer. Fait que c'était c'est quelque chose. Ils ne viennent pas à New Jersey pour venir te voir, ils vont au Madison Square Garden pour te voir. C'est ça la différence.
Okay. Puis qu'est-ce que je voulais dire donc? T'as-tu rencontré Lou Lamoriello qui est maintenant DG des Islanders vu que t'avais pas eu une.
Non. Non? Non, j'ai pas vu Pat non plus. J'ai pas vu. Cette année, eux, ils étaient dans l'Ouest, fait qu'ils étaient pas là quand nous on était là. Okay. Mais Lou Lamoriello était là. C'est vrai. À votre pensée, je viens de connecter, j'avais pas repensé à ça, c'est vrai. Non, j'ai pas reparlé depuis 2008. Allô. Je pense qu'on va laisser ça de même.
Après tes 5 saisons avec les Islanders, tu as été réclamé au bol à tâche par le Lightning de Tampa Bay, mais finalement, tu n'as pas joué là-bas. C'est quoi qui s'est passé?
Dans le fond, Vasilevskiy, lui, il venait juste d'avoir une blessure là, au cœur. Puis il y avait Ben Bishop dans le temps. Fait que je pense qu'il savait que Vasilevskiy revenait et qu'il allait jouer un petit peu plus. Fait qu'il voulait vraiment comme utiliser Ben Bishop au maximum pendant que j'étais là-bas. C'est déjà arrivé une couple de fois qu'il pensait me mettre, mais Ben, il voulait tous les jouer. Je me souviens que j'ai eu une discussion avec, puis c'était un gars qui voulait jouer, qui est compétitif. Fait que pour lui, je pense qu'il était comme, je suis le gardien en ce moment, puis je veux jouer. Fait que c'est lui qui disait au coach, s'il avait besoin d'un break, il aurait dit, mais j'ai pas été là assez longtemps pour qu'il y en ait de besoin, de fond.
C'est-tu dans leur équipe école que tu as passé à peu près 2 semaines, c'est-tu ça?
Oui. Donc là, après ça, quand Vasilevskiy est revenu, j'étais à Syracuse. Puis là, quand j'étais là-bas, eux, il y avait 2 jeunes gardiens de but. puis qui voulait développer. Fait que, dans l'américaine, c'est beaucoup une ligue de développement, on se le cachera pas. Ils voulaient développer leur gardien de but de leur organisation que eux avaient repêché. Fait que moi, j'étais comme tombé dans un no man's land. Comme, je pratiquais, mais je jouais pas. J'avais été comme backup. J'étais comme, hey, si je suis pas pour jouer ou faire rien, j'avais appelé mon agent. J'ai dit, comme, écoute, ça marche pas. Je veux m'en aller. Comme, ça me sert absolument à rien de rester ici. Fait que là, par la suite, une couple de jours plus tard, je m'avais fait échanger à Calgary. Eux, il y avait, à Calgary, il y avait une couple de blessures au niveau gardien de but. Fait que c'était comme un fit parfait là, pour nous.
Parfait. Pour continuer sur l'aspect balotage, ouais, c'est ça, aspect balotage. Tu sais, c'est comment de faire ça? On te libère, compte absolument rien. Si une équipe qui te veut, ils vont te prendre. Sinon, tu t'en vas dans les mineurs, mettons.
Ben, écoute, c'est pas on te libère pour absolument rien, c'est plus on t'envoie dans l'américaine parce qu'on veut que tu ailles là, puis que on te voit maintenant comme plus un troisième but, un troisième gardien de but qui peut venir nous aider s'il y a quoi que ce soit. Mais il faut que tu passes par le balotage. C'est plus pour ça. T'sais, c'est plus qu'il veut. On veut pas te perdre, mais si on te perd, ben, on a comme pas le choix parce qu'on veut pas avoir trois gardiens de but, parce qu'avoir trois gardiens de but, c'est pas très bon. Les gardiens de but, il faut s'y ajouter, il faut que ça pratique. Mais il m'avait envoyé à Bridgeport. Puis je me souviens, j'étais déjà parti, j'étais déjà dans la ville là, de la ligne américaine. Puis j'ai reçu un appel comme OK, tu s'en vas à Tampa Bay, ramasse tes affaires, puis tu s'en vas. Puis là, j'étais comme bon, OK. T'sais, c'est sûr que t'es excité au début, mais après ça, t'es comme t'es un peu pitché à gauche puis à droite, puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Là.
C'est sûr que la situation que je vais parler là, c'est un peu plus à l'extrême parce que toi, tu as été moins niaisé. Mais tu sais, au début de la saison, Seb, c'est qui le joueur là, qui a joué Edmonton, Vegas?
Ah, oh, Raphaël Labois, tu parles?
Ouais. Dans une semaine, il a changé 4 fois d'équipe, là, puis c'était toujours les deux mêmes, c'est n'importe quoi.
Ben, c'est parce que dans le fond, eux, ils ont besoin de te remettre sur les waivers après. Fait que si l'équipe est comme, ben là, nous, on le veut, fait qu'il te reprend. Mais quand tu te fais reprendre, faut que tu joues dans la Ligue nationale pendant un mois. Un joueur, c'est quand même plus facile parce que tu peux avoir un 7e défenseur ou un 8e défenseur puis jouer avec tes lignes. Un gardien de but, c'est quand même un peu plus tough. T'as deux buts dans une pratique. Fait que commencer à faire une rotation avec deux gardiens d'un bord puis un gardien de l'autre bord, ça fait un peu hockey mineur, là, je dirais. Fait que c'était plus difficile. Puis je me souviens quand moi, j'étais passé sur les waivers, les Islanders avaient été chercher John Gibson. Non, pas John Gibson, excuse. Gibson, le petit Québécois, là. Il avait joué avec l'Armada. Gibson?
Christopher Gibson, tu peux-tu?
Ouais, c'est ça. Fait que là, ils avaient été chercher lui pour me remplacer. Fait que là, quand moi, j'étais revenu dans le balotage, dans le fond, pour me faire envoyer à Syracuse, il était comme, ben là, on t'a déjà remplacé. Fait que, comme j'ai dit, business, c'est business. Fait que, genre, too bad. Fait que là, c'était pour ça que j'étais parti à Syracuse. Mais ouais, des fois, tu peux te faire niaiser longtemps. Il y a aussi un gardien de but. Il y avait un autre gardien de but qui faisait ça. Je pense que c'était Winnipeg puis Détroit. Puis à chaque fois qu'il passait dans les waivers, il se faisait pogner par son ancienne équipe. Puis c'était comme, c'était comme une joke, là, un peu comme la voix, là. Ouais. Mais aucun contrôle. C'est OK, tu t'en vas au balotage, c'est comme rendu là, je pense que t'es comme j'espère que personne va me prendre.
Fait que là, on a parlé un peu, mais échanger aux Flames par la suite, t'es pas déçu parce que c'est toi qui as demandé l'échange finalement.
Oui, c'est moi qui
ai demandé. Tu n'as pas été déçu de la Calgary, là.
J'avais été directement dans la Ligue américaine.
Okay.
Fait que eux m'avaient envoyé dans l'Américaine. C'était la première année qu'il y avait des équipes dans l'Ouest aussi. Fait que je jouais en Californie. Fait que c'était quand même un beau setup. Là. Une belle. Il n'y avait pas beaucoup de neige, disons. Mais niveau hockey, c'était le fun aussi parce que je jouais beaucoup. Fait que moi, c'est la seule affaire que je voulais, c'était jouer. Fait que j'ai joué beaucoup. Mais eux aussi, il y avait comme un carrousel de 3 gardiens de but en haut cette année-là. Fait que ça avait été un peu problématique en haut, mais moi, dans l'Américaine, ça m'avait pas affecté.
Je viens de regarder sur les prospects. Ils ont cinq joueurs qui sont présentement dans la Ligue nationale, dont Brett Kulak, que tu l'avais comme défenseur dans la Ligue américaine. Je pense qu'il était assez jeune quand il devait être là.
Oui, oh, il était très jeune. Je pense qu'il venait juste, tout juste de rentrer professionnel.
Mm-hmm.
Puis on s'est recroisé à Montréal. C'est ça qui est le fun des fois du hockey. Tu joues avec des gars, tu pars, tu reviens, puis t'es comme 6-7 ans plus tard, t'es rendu avec une famille, une blonde, puis je sais que, oh my god, c'est plus le petit jeune de 20 ans, mettons.
Ouais, c'est ça. Saison 18-19, tu as joué un match dans la Ligue nord-américaine avant d'aller en KHL. Comment tu as évalué l'option d'aller en KHL?
Ben, dans le fond, quand j'avais fini avec Stockton, ça c'était juste après. Puis là, comme je viens de le dire, je m'avais fait chipper à gauche et à droite, puis j'étais un peu tanné. J'avais une famille, deux enfants, puis j'ai plus envie de déménager puis de plus savoir. Fait que je suis comme, OK, parfait, je vais attendre, je vais aller en Europe.
Mm-hmm.
Puis il y avait une équipe en Russie qui voulait me signer, mais qui attendait encore de voir, parce qu'il y avait déjà un gardien de but. Puis en tout cas, niveau politique, c'est un petit peu différent là-bas. Là. C'est pas... C'est différent. Fait que là, moi, j'essaie de me garder en forme. Fait que je pratiquais avec l'équipe de Laval via un ami qui connaissait un des propriétaires à Laval. Fait que j'allais pratiquer de temps en temps avec les gars. Puis à un moment donné, le propriétaire est comme, ah, ce serait fun que tu joues une game si tu veux. Puis là, au début, j'étais comme, ah, j'ai pas envie de me blesser. Je veux pas, whatever qui arrive, quelqu'un qui me tombe sur une jambe ou quelque chose. Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais, comme, ah, t'sais, why not? Tu sais, pratiquer puis jouer, c'est quand même très différent, surtout pour un gardien de but. J'étais comme, ah, tu sais, je vais jouer une game, puis tu sais, whatever. Fait que j'ai joué ma game, puis là, une couple de jours plus tard, j'ai signé, puis je m'en allais en Russie. Puis je leur avais déjà dit que je m'enlignais pour aller en Europe, puis plus KHL.
OK.
OK.
Fait qu'ensuite, tu as joué en Europe encore, en Croatie, en Suisse. Ça a été quoi la plus grosse différence entre le hockey nord-américain et le hockey de l'autre côté de l'océan?
Je te dirais, pour un gardien de but, là, tu sais, nous, on joue beaucoup nos angles. Puis quand tu arrives sur une glace olympique, mettons, là, européenne, ça change un petit peu. Fait que quand je suis arrivé en Russie, puis on faisait juste un 2 contre 1. Il fallait que je pousse d'un, mettons, de gauche à droite. Des fois, les gars, j'ai trouvé comme plus loin. Là, c'est comme, ouais. Au début, je me faisais battre tout le temps, far side, comme côté opposé. Là, j'ai comme, attends une minute, là. Tu sais, faut que je travaille là-dessus. Fait, ça a vraiment été ça pour moi de travailler niveau angle. Niveau jeu, je te dirais que toutes les ligues sont différentes. T'sais, tu joues en Russie, c'est un style de jeu. Tu joues en Suisse, c'est un autre style de jeu. En Allemagne, en Suède. Enfin, je dirais pas Europe, c'est comme, faut vraiment que tu les catégorises en plus chaque ligue ont leur style de jeu.
OK.
Tu as gagné la bronze aux Jeux Olympiques de 2018. C'est le rêve de tout hockeyeur de jouer pour son pays. Tu te rappelles-tu d'avoir reçu l'appel de la confirmation que tu allais faire l'équipe?
Oui. Dans le fond, j'avais fait une couple de tournois avant. Puis là, c'était durant la saison, puis j'étais rendu en Croatie. Puis je me souviens encore, j'étais avec un de mes amis, un Québécois, on jouait ensemble là-bas. On avait été au Barbier se faire une coupe de cheveux ensemble. Puis j'avais reçu un appel, puis c'était un appel manqué. Je reconnaissais pas le numéro. J'étais comme, ah, non, whatever, tu je prends pas de message, je prends rien. Une heure plus tard, je pense que mon agent me dit « Hey, OK, Canada, il essaie de te rejoindre. » Je suis comme « Oh! » Je dis « OK, je suis prête. » Fait que là, ils m'ont appelé right away, puis il y avait tous les gars là, de l'équipe, le comité, puis les scouts qui étaient tous ensemble, puis ils m'ont annoncé que j'avais fait l'équipe. Fait que c'était quand même un moment très, très spécial pour moi.
En 2019-2020, tu fais ton retour en AHL, mais seulement 7 parties. Qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé?
Fait que là, l'année d'avant, j'avais joué en Allemagne. J'étais revenu. Puis, durant la saison d'été, à fin de l'été, je me déchire le tendon d'Achille. Complètement. Fait que j'étais encore à Montréal, j'avais pas signé de contrat. Fait que là, j'ai été l'opération, le rehab, puis ça avait quand même été, c'est quand même une bonne blessure à revenir, là, surtout pour un gardien de but. On utilise beaucoup les mollets pour pousser. Fait que finalement, j'avais signé avec Grand Rapids un PTO, un essai professionnel, parce que Bernier, il était blessé, fait qu'il avait besoin d'un gars dans la ligne américaine. Fait que là, mon agent m'appelle, il me dit, t'es-tu prête à aller à Grand Rapids? Je dis, ben, ça fait peut-être, j'ai fait 2-3 pratiques, là. Je commence à patiner, j'étais pas prête à jouer. Mais je me suis dit, si je prends pas cette opportunité-là, je sais pas si je vais en avoir un autre pour jouer cette année. Fait que j'ai dit, ouais, je suis prête. Fait que là, je m'en vais là-bas. Puis dans la première semaine, je pense que ça fait 3 jours que je suis là, il me dit, t'es-tu prête à jouer? Là, je suis comme, attends une minute, là. Là, je dis, non, je commence à y parler, je dis, écoute, j'ai une blessure, j'ai pas fait beaucoup de pratique, laisse-moi une autre semaine au moins. Mm-hmm. Fait que là, il me laisse une autre semaine, il me fait jouer. On perd, mais ça a bien été. Puis je jouais quand même très conservateur, un peu plus profond, je faisais pas. Je jouais vraiment le plus gros possible, puis je challengeais beaucoup moins. J'ai joué 3 matchs là-bas, ça a super bien été, mais là, Bernier est revenu, puis ils ont décidé de me laisser aller, puis je pack mes affaires, je retourne à Montréal, puis j'étais même pas 2 heures de route durant le voyage, puis les Kings m'ont appelé, ils m'ont dit, ils veulent t'offrir un contrat, faut que tu partes dans genre 48 heures, fait que je suis retourné à Montréal, j'ai pris l'avion, j'étais allé, j'avais signé un two-way. Puis là-bas, j'ai joué 3 ou 4 matchs. Puis ça avait bien été, mais là, le COVID est arrivé. Fait que tout a été arrêté. Fait que je suis retourné à Montréal après. Fait que ça a été beaucoup de voyagements, mais au moins, j'étais content d'avoir joué. Puis ça a bien été. Puis ça m'a permis de signer en Suède l'année d'après.
Okay. Justement, tu as signé en Suède pour la saison 2021. T'avais-tu l'idée en tête de revenir en Amérique du Nord après ou si tu voulais continuer en Europe après ça?
Rendu là, j'y allais un an.
Un an à la fois.
Un an à la fois. J'avais été là-bas parce que c'était le COVID. Yeah. Puis là-bas, il est comme un peu plus ouvert niveau restrictions. J'étais comme, ça va être une qualité de vie un petit peu plus ouvert pour moi et ma famille. Ouais. On était là-bas, j'ai bien aimé ça. Mais par la suite, durant l'année, j'ai eu un appel du directeur général des Lions puis qui voulait que je revienne. Mm-hmm. Puis je commençais à être plus vieux, mes enfants commençaient à aller à l'école, puis j'étais comme, peut-être que ça serait bien de revenir à la maison, puis mettons, finir ma carrière tranquillement. J'étais rendu pas super vieux, mais rendu à rouler ta bosse en ligne américaine en Europe. J'étais comme, tu sais, je l'ai vécu, j'ai eu beaucoup de blessures aussi, fait que j'étais comme, peut-être que bon, je reviens à la maison, puis on verra qu'est-ce qui arrivera. Fait que après ça, j'étais avec les Lions en début de saison, puis après ça, j'ai été quand même rapidement avec le Rocket, puis j'ai jamais regardé en arrière, disons.
Parfait. Pour continuer avec les Lions, l'équipe était encore assez jeune quand t'as été, ça faisait pas 5 ans qu'il existait déjà. Comment était l'ambiance là-bas au début? Parce que, me semble, la première année, tout le monde nous vendait la grosse ambiance au Colisée, c'est ça?
Ouais, moi, de qu'est-ce que j'ai vu, c'était quand même tout le temps plein, une belle ambiance, c'était neutre, là, t'sais, notre chambre était pas finie encore d'être construite, puis on avait quand même commencé la saison, mais niveau ambiance puis partisans, il était quand même, j'ai trouvé ça impressionnant, là, de soir après soir, d'avoir des belles crowds comme ça, là.
Petite anecdote un peu drôle, les partisans des Lions, on dirait, pour acheter un chandail, il faut que tu sois dans la famille. Parce que mon grand frère a acheté un chandail de Kevin Poulin, numéro 39, d'un Lion. Il s'est fait poser 8000 questions pour savoir s'il était dans ta famille. C'est un peu drôle quand même.
c'est un petit poulain?
Non, 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 on est des réveillés, mais on dirait le monde dans l'aréna pensait que pour acheter un chandail, il fallait être un poulain justement.
C'est quand même drôle, ça.
Justement, tu en as parlé un peu, tu as été rappelé par le Rocket en 2 saisons, 58 parties de jouer. C'était comment pour un gars de Montréal de jouer pour le Rocket? C'était proche de la maison.
Comme j'ai dit, mes enfants commençaient à être un peu plus vieux, fait que là, ils commençaient à aller à l'école à la maison, fait que pour moi, c'est vraiment je sais pas une stabilité, mais c'est un confort de jouer à Montréal, puis même à Trois-Rivières, j'étais content, c'était pas très loin. Mais non, j'ai découvert la Place Belle aussi. C'est pas un aréna que je connaissais beaucoup. J'avais jamais joué contre le Rocket. J'avais jamais vraiment été là, voir le setup aussi, la chambre, le gym, tout comment que c'est fait aussi, c'était vraiment le fun. Hein. Puis ils ont tellement un beau setup, puis l'équipe prend tellement bien soin des joueurs. Puis, fait que c'était vraiment le fun pour ce volet-là.
Parfait. Fait que dans le fond, tu sais, t'as parlé un peu, tes enfants étaient plus vieux, ils vont à l'école. Fait que si, mettons, je te donne le choix, une autre année complète, Ligue nationale ou rester avec le Rocket, t'aurais choisi quoi? Genre Ligue nationale, pas à Montréal, là.
Ah,
Grosse question.
j'avais fait une autre année NHL,
Une autre année, nature, parfait.
mais garanti, pas de up and down. Puis tu me dis, tu gagnes, whatever, puis tu t'en vas là, puis tu es là pour l'année. Ça, je l'aurais fait. Mais de, mettons, t'sais, redéplacer la famille ou puis être incertain de up and down, ça, non.
Et finalement, après la saison 2022-2023, tu prends ta retraite. Ça n'a pas dû être une décision facile à prendre quand même parce que un joueur d'hockey veut pas arrêter de faire sa passion non plus.
Ouais, mais comme j'ai dit, j'ai eu beaucoup de blessures. Ma dernière année, j'ai eu une commotion. J'avais encore des problèmes de genoux. Tu sais, c'est quand même. Tu sais, oui, c'est un rêve de jouer au hockey, mais je pense que je regardais plus niveau physique, puis comment que. Tu sais, j'ai encore des jeunes enfants, aller skier avec eux ou aller jouer au hockey, avec les problèmes de genoux que j'avais, ça me donne quoi de continuer un autre 3-4 ans, puis aggraver ça. Mes garçons commençaient à jouer au hockey aussi les samedis, dimanches. Je les voyais pas tout le temps. Fait que je voulais quand même être présent pour eux aussi. Tu sais, je m'ennuie pas de pratiquer, je m'ennuie pas d'être sur le boss. La seule affaire que je m'ennuie, c'est d'être à l'aréna, puis être avec les boys le matin, puis prendre mon déjeuner, prendre mon petit café, puis aller parler au trainer, aller parler au gars de l'équipement, aller dans le gym, faire des jokes. Puis c'est ça, je m'ennuie de ça. Mais de niveau jouer des games un peu, pratiquer, puis le reste qui vient avec ça, j'étais comme, je l'ai assez fait, puis j'étais prêt à passer à d'autres choses.
T'as été le coéquipier un peu de Kaden Primo. Comment ça a été dur de le voir en début de saison avec les mauvais matchs qu'il avait eu puis tout ça devait être pas facile pour toi qui devais être quand même proche de lui?
T'sais, être un gardien de but, t'es soit le héros ou le zéro, t'sais. Puis des fois, t'sais, on juge beaucoup les gardiens de but, puis on les juge quand même assez dur, que ce soit en bien ou en mal. Je parle des deux. T'sais, tu peux être un joueur, puis t'as un mauvais match, mais mettons que tu gagnes 4 à 1, personne, t'sais, pas beaucoup de personnes vont en parler. Mais t'as un mauvais match, t'as un gardien de but, c'est rare que tu vas gagner quand même 4 à 1. T'as un mauvais match, habituellement tu perds. Fait que oui, je me sentais mal pour lui. Je sais que, t'sais, juste niveau équipe, il n'y avait pas un bon début de saison. On va se le dire que, t'sais, en tant qu'équipe, ça allait pas super bien. C'est plate parce que là, t'sais, on dit, ah, c'était à cause de lui, ou t'sais, ah, il a pas bien joué, mais l'équipe en général. Là, on a vu Daubech qui a embarqué, puis un gars de première année, un gars qui est sur l'adrénaline, un super bon gardien de but aussi. Mais tu sais, qui dit que Primo aurait peut-être pas gagné ces matchs-là aussi? C'est sûr que là, après ça, un dur début de saison, ça affecte quand même aussi le mental. Puis quand tu es gardien de but, c'est quand tu commences à être dans ta tête, c'est là que Tu veux pas trop être dans ta tête. Tu veux être confiant, puis tu fais tes affaires. Puis je pense que là, petit à petit, il est quand même encore jeune, Primo, fait que ça l'a quand même affecté sur ses performances.
OK, parfait. Fait qu'on va passer à la mise en échec.
La mise en échec est une présentation de CAG Sport pour des RAS de cartes d'hockey, vente et échange de cartes sportives de toutes sortes et futur break de boîtes de cartes. Consultez la page Facebook CAG Sport. Mise en échec.
La mise en échec des anecdotes drôles. Ton moment de bienvenue dans la ligue, ça peut être LHMQ, HL, NHL, un but que tu as laissé niaiseux ou quoi de même.
Un but niaiseux,
une fois que tu as eu l'air fou, ça peut être une pause que tu as faite parce que ça doit arriver. Ça doit être arrivé, je veux dire.
Des passes, ouais, surtout en début de carrière, là, je pense que je me croyais meilleur que j'étais à l'époque, mais je sais pas si c'est ma première année, mais j'ai déjà embarqué, comme tout le monde a fait dans sa vie une fois, sur la glace avec des protège-larmes, mais j'étais back-up, puis j'avais été faire quelque chose, j'avais vu mes protège-larmes, puis je les avais oubliés, puis j'ai embarqué sur la glace, puis j'ai tombé à terre. Oh, dans la ligne nationale. C'est pas à tombe, là. Non, dans la ligne nationale. J'étais comme. J'ai une chance que je jouais pas, sinon, oublie ça, j'aurais dit au coach. Mais là.
Parfait. Tu veux t'y aller, Zach?
Ouais, un but que tu dois avoir regretté en pré-saison contre Toronto.
Ouais, on a la vidéo, tu peux parler en même temps. Là. Je pense que j'ai dit ça.
Oui, fait que là, dans le fond, c'est ça, le dégagement. La puck est arrivée, mais elle spinait tellement.
Ouais, j'ai pas mis un bout.
Tu veux-tu j'attends?
Ouais, ben tu peux en parler un petit peu, je vais aller l'ajouter tout de suite, ça sera pas bien, non?
Mais dans le fond, la puck elle spinait tellement que quand ça pognait mon tape sur mon bâton, elle est partie, mais du côté opposé à ce que j'aurais voulu, mettons, faire un jeu. Puis par le temps que je l'avais ramené, mon défenseur, qui était Norlander, il était déjà rendu en arrière du net. Fait que là, j'avais plus d'options. Puis j'ai comme essayé de faire un fake puis juste la domper dans un coin parce que j'avais regardé aussi en avant puis j'avais aucune option. Puis il est arrivé plus vite que je pensais. Il a mis son bâton, ça a pogné son bâton puis il est rentré puis j'étais... Mais je me suis dit... C'est les pré-saisons, puis rendu là, c'était pas grave, c'était pour mon premier match depuis longtemps. Puis cet été-là, j'avais été blessé quand même longtemps aussi. Fait que quand j'étais revenu au jeu, ça faisait peut-être une ou deux semaines avant le camp d'entraînement. Fait que niveau pratique, j'avais pas fait beaucoup de manipulation de rondelles durant l'été. Mais tu sais, après ça, maintenant, je vois ça, puis j'en ris, mais... C'est ça, c'est des choses qui arrivent. On a vu Fleury l'autre jour qu'il y a eu un but de la deuxième ligne bleue. Puis on a vu le goaler des Capitals de Washington qui est lui directement dans son but. C'est des fois, c'est comme que je dis, un joueur il va faire une erreur, puis ça ne paraît pas beaucoup, mais le gardien de but, quand tu fais une erreur, t'es comme, oh, ok, ouais, pas ta meilleure celle-là. Mais, maintenant, je regarde ça. Je n'en entends encore parler, disons.
pour être goaler, moi aussi, à plus bas niveau, mais quand tu laisses un truc comme ça passer, tu te sens dans tes shorts en tabarouette par contre?
Ouais, mais je savais que je compétitionnais pas pour un poste à Montréal. Je m'en allais déjà à Trois-Rivières. J'étais juste content d'avoir la chance de jouer un match pré-saison. Je savais même pas. C'était pas dans les plans. C'était juste du surplus. Puis, tu sais, même après ça, durant l'année, j'ai eu une super bonne année, puis ça l'a pas affecté. Je pense qu'à 21-22 ans, je m'avais plus... j'ai été plus dur sur moi-même, mais rendu à 31 ans, j'étais comme, whatever. C'est passé. On passe à un autre appel.
Puis, tu aurais... selon les vidéos que j'écoute avec ta blonde, tu aurais détesté la Suisse?
Ouais, il est arrivé tellement de péripéties en Suisse, là. J'ai pas été là longtemps. Fait que dans le fond, je suis arrivé après les. Non. Après la Spengler Cup, il y a une équipe en Suisse qui m'ont approché, puis ils voulaient me signer un an et demi. Fait que finir l'année là-bas, puis jouer l'année d'après. Mais eux, il y avait déjà leur. T'as un nombre d'importés, là, par équipe, puis ils en avaient déjà assez. Fait que moi, je suis arrivé là-bas dans l'optique de m'établir pour l'année d'après. Fait que là, je suis arrivé, puis je jouais une coupe de match, là, comme ici et là, puis c'était les Olympiques. Fait que je me préparais pour aller aux Olympiques. J'arrive là-bas, je me fracture le poignet durant une pratique, juste avant les Olympiques. C'est ça, je pense que la première fois que j'en parle là, sur un podcast. Là, juste avant les Olympiques, je me fracture le poignet. J'ai à 4 semaines d'aller jouer. Là, je suis comme, calisse, OK. Là, eux autres pensaient que je faisais à semblant d'être blessé pour pas jouer là-bas, pour pas me blesser. J'ai eu des injections de cortisone dans le poignet. Finalement, je manage pour être correct pour les Olympiques, mais tu sais, encore là, je suis pas à 100%. Là, je reviens au jeu juste pour ça. T'sais, pour eux, en plus, ils étaient comme, c'est suspect. Je m'en vais là, je joue super bien. Je reviens, la cortisone commence à plus faire effet. Je recommence à avoir mal au poignet. Puis là, ils voulaient pas me réinjecter. Fait que j'ai continué, j'ai joué une coupe de match. Mais il y avait déjà un gardien de but. Puis eux, on se bataillait pour relegation, pour pas se faire reléguer dans la deuxième ligue. Fait qu'on était dans la A, puis tu voulais pas aller dans la B. Fait que là, nous, on jouait contre on était la dernière équipe, on jouait contre la deuxième dernière, puis tu joues un 3-5. Celle qui gagne ça tombe en vacances. Celle qui perd s'en va jouer contre les champions de la deuxième ligue. Nous, on perd, on joue contre la deuxième ligue, mais tout durant ce temps-là, moi, je joue pas, là. Je suis dans les estrades, je pratique, je fais mes affaires, puis je suis vraiment là en touriste, là, presque. Puis, on perd en relégation. Fait que là, il dit, bon, ben, l'impression qu'on est dans la Ligue B, fait que, tu sais, ton contrat, il est plus valide, puis j'étais comme, je reviendrai pas jouer dans la B, j'étais comme. Fait que là, moi, j'étais ici, j'ai joué une demi-saison. Je pense que j'ai joué comme 4-5 games, puis je suis parti. Mais j'étais comme, ah, c'était juste. Dans ma tête, j'étais comme, qu'est-ce, enlève un autre importé, puis fais-moi jouer à la place, je sais pas. T'sais, comme, ça marchait pas, qu'est-ce qu'il faisait. Fait que, je sais pas, je change quelque chose, mets-moi dans le net. Mais les autres, ils voyaient ça de leur façon, puis. C'est ça. C'est pas. J'ai pas détesté la Suisse, c'était juste. C'est plus les événements qui ont été quand même drôles, slash. C'est ça.
Parfait. Pas tant une anecdote, mais tu peux peut-être nous plugger le nom du compte TikTok sur lequel on peut te suivre, toi et ta blonde, parce qu'honnêtement, c'est assez drôle à voir des fois, surtout de voir enlever le cœur d'un avocat avec un nouveau bouteille de vin, je sais pas quoi.
Ouais, ça, j'avais vu ça. Mon feed là, sur les réseaux sociaux, c'est tellement des affaires comme drôles. Fait que des fois, je vois des affaires drôles, puis je suis comme, il faut que j'essaie ça, parce que je suis comme curieux moi aussi. On dit que c'est un truc que j'ai, mais j'ai pogné ça en ligne. Fait que, on essaie ça, puis on a bien du fun. Fait que, non, c'est juste, elle avait un compte TikTok, puis des fois je faisais des vidéos au début, puis on voyait qu'il y avait beaucoup de views, qu'on avait beaucoup de questions, fait qu'on a commencé à en faire de plus en plus ensemble, puis maintenant ça va super bien. Dans le fond, le compte à ma blonde, c'est its.tania.gauthier, puis on fait toutes nos vidéos là-dessus. Que ce soit d'hockey ou de jeu de coupe ou de challenge ou on fait vraiment de tout là. On se prend pas au sérieux, puis on a vraiment du fun avec ça, puis ça me j'avais jamais fait ça jusqu'à tout récemment, puis j'ai commencé à prendre goût, puis c'est le fun. Fait que on passe du temps ensemble, puis on fait des niaiseries.
C'est un sacré après-carrière, pareil. Hein?
Ouais, ben, je fais ça, puis je suis aussi rendu, je coach les gardiens de but dans la région de Bromont, Granby et Sherbrooke. Fait que, okay. J'ai quand même encore un pied dans le hockey à ce niveau-là. Puis, dans mes temps libres, je fais des niaiseries avec ma blonde maintenant.
Si vous n'avez pas déjà vu le TikTok, pour vrai, c'est quand même intéressant. C'est quand même très drôle. Fait que, allez-y. Ouais,
très drôle. D'accord, on va passer au dernier segment, les tirs de barrage.
Les tirs de barrage sont une présentation de Perfo Elite. Pour tous vos besoins d'entraînement, que ce soit seul ou en équipe, hors glace ou sur glace, physique ou mental, et tout ce qui touche le développement global, rendez-vous sur perfoelite.com. Bon tir de barrage.
Parfait, les tirs de barrage, une couple de questions à rafale. Le gardien à qui tu te comparais?
J'aimais me comparer à Luongo quand j'étais plus jeune.
OK.
Foursome de golf de rêve.
Mais là, on va ramener Luongo. Mm-hmm. J'aimerais ça avoir Martin Brodeur, puis Dominique Hachek. Okay. Je suis pas mal sûr qu'il y ait des bonnes histoires Dominique Hachek.
C'est
ça. Ça serait quand même drôle.
Ça, c'est un foursome de goalers au complet, ça.
Ouais. Ouais, que des goalers. Yes. Imagine les histoires.
Une place que tu as adoré jouer.
J'ai adoré jouer à Laval, mais mettons on enlève Laval, j'ai adoré jouer à New York aussi.
Okay.
Une place que tu as détesté jouer maintenant.
Détesté, ça peut être des équipes sur la route.
Oh. On pourrait dire, ouais, vas-y.
Il y a une coupe de. Je peux pas dire les villes, là, mais en Russie, il y a une coupe que des fois j'arrivais à l'aéroport. Ils l'ont pas réparé depuis les dernières guerres, mettons. Il manquait. il y avait des trous dans le plafond, puis ça, c'était un peu croche. Mais ouais, en Russie, c'était tout ou rien là-bas. Sauf que c'était des villes quand même riches comme Moscou, Saint-Pétersbourg ou. Ailleurs, puis t'avais le contraire, faisait pitié.
Okay, okay.
Un joueur qui t'a épaté durant ta carrière?
Je te dirais Evgeny Nabokov. Okay. Niveau gardien de but, j'ai joué avec à New York, puis il a quand même passé des années 90 jusqu'à les années 2010-ish. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il a su quand même, puis surtout que c'était pas un gars, papillon trop, mais il a quand même su continuer puis s'adapter à la nouvelle NHL puis performer. Là, même quand il avait 39 ans, je regardais jouer puis j'étais comme, ah ouais, il goalait. Là.
Un entraîneur qui a été bénéfique dans ta carrière?
J'en ai deux, dans le fond, Daniel Fréchette, mon ancien coach de gardien de but avec l'éthique de Victoriaville. Puis Marco Marciano, coach de gardien de but à Laval. Lui, j'avais commencé à pratiquer avec lui avant que j'arrive à Laval. Quand j'avais été environ 2016, j'avais commencé à travailler avec lui. Puis avant ça, j'étais vraiment comme un gardien athlétique, un peu Dominique Hachek, là, à gauche et à droite, puis la split. Puis lui, il m'a ramené un peu plus en contrôle, plus technique. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir une carrière prolongée.
Okay. Avais-tu des superstitions comme gardien?
Je faisais beaucoup les mêmes choses, comme, mettons, ma routine.
Okay.
Superstition, pas tant, à part peut-être finir. Je mettais ma patte gauche avant ma patte droite. Je voulais finir avec ma droite. Okay. Pourquoi? J'ai aucune idée, mais ça. Mais des fois, si j'avais pas une bonne game, là, je switchais. Jusqu'à temps que j'avais une mauvaise game, là, je re-switchais. En tout cas, c'était ouais, des petites choses de même. Là.
Ça, c'est fou pareil, parce que tout le monde qui nous dit « je mets un côté avant l'autre », c'est toujours le gauche avant le droit.
Ah, ouais, c'est vrai. À chaque joueur qu'on parle.
Le gauche avant le droit, ouais. La plupart du monde, c'est du monde droitier. Là, genre on vit dans un monde de droitier, mais tout le monde, c'est le côté gauche avant. C'est quand même assez fou.
Mais ouais. Moi, c'était pas « il faut que je commence par la gauche », je me disais « il faut que je finisse par la droite
okay. ».
Je sais pas si c'est pareil, mais c'est ça.
S'il y avait une jambe au milieu, c'était correct. là, la question, je pense qu'on peut devenir un peu avec ta réponse un peu plus tôt, mais Brodeur ou Roy?
Brodeur. Les deux, c'est des. C'est une discorde, là. Les deux, je les vois comme des très grandes idoles. Mm-hmm. Mais Brodeur, il a joué plus longtemps. Puis, un peu comme Nabokov, il s'est adapté à un autre style de NHL. Que mm-hmm. Patrick, lui, il a été innovateur dans son style, amener le papillon. Mais je pense que Brodeur, tu sais, du stand-up à. Hybride, je dirais pas papillon pour lui, mais mettons plus un hybride puis qui a joué, j'ai joué contre, fait qu'il a quand même joué longtemps.
un conseil que tu donnerais à un jeune gardien?
De s'amuser, d'être naïf. Un peu comme quand moi j'étais jeune, je regardais pas, ok, là faut que je performe cette année pour que l'année prochaine je sois dans le deux lettres ou dans une catégorie telle ou telle. C'est t'es dans cette équipe-là, t'es là, amuse-toi, performe, donne ton 100%, puis t'sais, ça va vite, là. Le hockey, tu sais pas dans combien de temps tu vas arrêter. Tu peux arrêter de jouer à 16 ans, fais juste amuse-toi, enjoy le moment, puis la suite, ça va venir.
Parfait. Que dirais-tu au Kevin de 16 ans?
Le Kevin de 16 ans, je pense à Vito, de rester focus, de continuer, d'arrêter de penser aussi. Je pense que c'est là, à 16 ans, que ça a commencé à peut-être penser un petit peu plus. Puis c'est quand tu commences à entendre tes noms dans une liste, mettons pour l'année. Ah, il est projeté peut-être en première ronde ou en deuxième ronde. Puis, dire qu'il y a comme il y a du bruit qui commence à commencer. C'est le commencement du bruit mental. De juste comme continuer d'être naïf puis de s'amuser.
Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite?
Me souhaiter. Écoute, j'ai deux garçons qui jouent au hockey, je suis en bac avec eux sur la glace. Je suis super content. J'ai une petite fille qui vient d'avoir un an. Fait que je pense que c'est des heures de sommeil. Mais non, je suis vraiment content. C'est le fun de les voir évoluer. Puis maintenant, c'est leur journey à eux qui. C'est leur chemin qui se trace. Fait que c'est beau de voir ça puis d'être là. Mais quand c'est papa qui donne des conseils, des fois, c'est plus dur, disons.
Ouais. Commentaire d'un auditeur. Bravo pour ta carrière, en tout cas. C'était vraiment intéressant comme podcast. Merci, Félix. Oui, merci à Kevin. Ça a été 1h12. On t'a gardé assez longtemps.
C'est bon. Merci beaucoup, les boys.
C'était super intéressant.
Ça fait plaisir. Bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Bye.
Salut. Qui dit ça fait plaisir, c'est plus à nous.
Ouais, c'est ça, ouais. Parfait, ouais, y a pas de problème. Fait que, on va rentrer tout de suite le reste, je pense qu'il y a une couple de sujets à nous dire.
Ben, ils sont bons, quand ils l'ont poussé ce jour-là, ils l'avaient la porte.
Salut, ref.
Hey, salut les boys, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ben, oui, ça va super bien. Là, on va donner 2 minutes à Zach en partant. Pourquoi? Parce que, regarde, Mathieu Duguay, ici, qui nous dit « Come on, Zach, on a eu un gagnant de la Coupe avec Montréal, Gilbert Dionne. » Tantôt, là...
Gilbert a arrêté en quelle année? C'est assez loin.
C'est assez loin.
Monsieur Poulain a arrêté quelle année? C'est quand même beaucoup plus proche. Mathieu, c'est ce que je voulais dire. Désolé.
Colin. OK, bref, on va commencer tout de suite avec mes trucs parce que j'en ai pas mal aujourd'hui. On va commencer avec Alex Ovechkin. Pourquoi je vais parler d'Alex Ovechkin? Parce qu'ils ont sorti une liste. Là, vous dites, hey, Claude, c'est bien trop petit, on ne voit pas. Ils ont sorti une liste de tous les gardiens qui réussissent à scorer. J'en ai encerclé deux, mettons, juste qui m'intéressait un petit peu plus. Donc, celui contre qui Ovechkin a le plus scoré, Marc-André Fleury avec 28. OK. Bon, faut dire que Fleury, ça fait 40 ans qu'il roule. Fait que. Non, mais pour vrai, écoute, Fleury, ça fait super longtemps qu'il est là, il a toujours été au top. Puis en plus, ben, dans le temps, il était dans, la même division que Ovechkin. Tu sais, les Pingouins puis les Caps sont, dans la même division. Fait qu'ils se rencontraient souvent pendant, pendant la saison. Donc, 28 contre Fleury, c'est le gardien qui a donné le plus de buts à Ovechkin. Puis l'autre, ben, c'est juste pour ma curiosité personnelle, mais on voit ici Carey Price, qui en a quand même donné 22. Carey Price, donc... il a quand même affronté Ovechkin assez souvent aussi, parce que les deux équipes étaient dans l'Est. Sinon, écoute, au moment où on se parle, on va aller voir... oui?
Jamais battu Jakub Dobesch.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Le 179e, là, en tout cas, bref, il l'a fait la semaine passée. Mais c'est pas Jakub Dobesch. Jakub Dobesch qui a donné un but aux Caps plutôt cette saison. Bref, on va passer au classement, donc dans, la Ligue nationale. Bon, là, ça, c'est à jour avant le match Ottawa, OK? Fait que là, Ottawa ont gagné leur match 2-1 contre New Jersey, fait qu'ils sont rendus à 52 points. Sauf qu'on voit que les Canadiens ont quand même des matchs en main là, sur Boston, sur Columbus. Fait qu'écoutez, les boys, présentement, je ne sais pas si je peux spoiler les scores.
Non, non, j'ai checké,
c'est 2-1 pour New York. Sauf qu'on sait que dernièrement, ben, 2-1, il n'y a rien d'autre que les Canadiens sont capables de scorer et de la remonter ça.
Je pensais qu'à
3-0,
il n'y avait rien là non plus.
Ben, 3 buts, là, pour vrai, là, moi, mettons je regarde une game de hockey, je suis plus confiant à 2-1 qu'à 3-0. Parce que 3 buts, là, j'ai tout le temps dit que c'est la pire avance que tu peux pas avoir. OK, t'en donnes un, bah, c'est pas grave, on continue à jouer, boys. T'en donnes un autre, wow, là, tu deviens nerveux. Puis là, ben, c'est là que l'hémorragie commence. 3 buts, 3-3, 4-3, 5-3. C'est ça. Puis c'est rare que l'équipe qui mène par 3 buts, qui se font remonter, c'est rare qu'ils réussissent à gagner. En temps normal, c'est l'équipe qui remonte qui l'emporte. On va parler un peu de Capo Caco. Pourquoi on parle de lui? Parce que, regarde, lui, c'est juste le changement d'air qui a fait du bien. Okay? Donc, on voit qu'en 30 matchs versus 14 matchs avec Seattle, donc, on va dire presque la moitié. C'est pas tout à fait la moitié, presque la moitié. Fait qu'il y a 13 points versus 14 qu'il y avait avec New York. Fait que juste donc, un nouvel environnement qui a fait du bien au jeune homme. Des fois, il y a des fits. Ça marche juste pas. On va penser à... Bon, Patrick Laine, c'est un petit peu différent parce que lui, c'était son état d'esprit aussi. Il a dit publiquement là, que ça allait pas bien. Mais écoute, Patrick Laine, il a recommencé à scorer depuis qu'il est à Montréal. Donc avant ça, ça allait pas bien. Hey, on a eu un goalie goal cette semaine. Ouais. Alex Nedeljkovic. C'est vous ce qui est le plus drôle dans ce match-là? C'est que Alex Nedeljkovic, pardon, il est dur à dire c'est un son nom-là. Il a aussi une passe. Fait que, écoute, le gars est fini avec un but, une passe, 40 arrêts. Un but, une passe, là, il y a bien des joueurs qui n'ont même pas ça dans la saison jusqu'à date. Donc, écoute, un beau match offensif d'un gardien.
Puis, un but, une passe dans cette game-là, c'est plus que Crosby, Malkin puis Eric Carlson.
Effectivement.
Il manquait juste une bagarre, puis c'était le tour de chapeau
Goliath.
Excuse-moi, j'arrête de te couper.
Non, ben non, c'est correct. Écoute, t'as pas tort, sauf que là, des batteurs de gardien, on veut plus ça. Ça fait longtemps qu'à le faire, j'ai pas vu ça. Allez, on va passer
Carey
à l'avance.
Price, je pense. Carey Price contre Tim Thomas.
Ouais, je sais pas si c'est le dernier, mais ça fait longtemps qu'on a pas vu ça.
Ouais.
On va passer à l'ovation du F.
Une fin, Veilleux s'amène. C'est là qu'on va le prendre. Quel tir de Veilleux! Batters gaffe, Veilleux marque, c'est 3-0. On va le forcer à passer à Bourroche, un tir bloqué, retour. Et quel arrêt de Blackburn!
Komarov la fin, ça va en son but. Incapable de tirer, contourne le filet, revient devant. Et but! Bien créé par Poirier, de l'autre côté, la passe, la flotte.
Oh! Et le but! Quel but! Rapide, entre, couvert le filet.
Oh wow!
Oh wow, Simon!
Ok, hashtag remplissons les arénas, l'ovation du F de la semaine. Bon, là, j'ai oublié de parler de NFL un peu plus tôt, mais je vais faire l'ovation du F, puis je vais revenir dire ce que je voulais dire sur la NFL. L'ovation du F de la semaine, ça va à Justin Carbonneau. Justin Carbonneau, donc, match contre les Huskies de Rouen. Bon, c'est pas lui qui score, c'est Zachary Wheeler qui score, mais juste que vous regardez la séquence. Donc, premièrement, il gagne sa bataille 1 contre 1. qui est une bataille un contre un, c'est pas nécessairement là, sur le bord de la bande. Là. C'est une course pour la puck ou peu importe. Il est là-dessus. Écoute, il approche au porteur, il bloque son gars, il pogne la puck. Puis la patience qu'il a eu avant de faire la passe à Zachary Wheeler, il a attendu que le défenseur fasse le premier geste pour être certain que ça passe. On check ça.
Sur la glace, Hamel laisse pour Coupette son jeu pour Cloutier. Vous voyez la pression du gay arriver. Ça revient à Carbonneau, ça mène couloir en gauche. Pour Wheeler, et compte! Zachary Wheeler, double avance de l'Armada. Complète un jeu de jeu de l'entrée des jambières du gardien but Samuel Meloche. Comme perdu la rondelle et celle-ci a glissé derrière le gardien de but. L'Armada 2, les Huskies 0.
Donc, c'est ça. Fait que tout un jeu de Justin Carbonneau. Bon, finalement, écoute, il a presque tout fait le jeu tout seul. Bon, il l'a pas mis dedans, mais très, très, très belle passe. Et compte! Oui, effectivement, et compte. Je vais parler de NFL. Pourquoi? Parce que, bon, là, il y a encore un match en cours, sauf qu'on a presque le carré d'as. Donc, la finale de il reste les adversaires des Chiefs à décider. Ce qui devrait logiquement être les Bills, qui mènent présentement 21-10 contre les Ravens de Baltimore. Sauf que après ça, dans la Ligue, dans l'Association nationale, pardon, on va avoir un affrontement de la division Est, donc avec les Commanders de Washington, qui ont quand même surpris les Lions de Détroit. C'est à peu près la seule surprise là, qui est arrivée à date là, en NFL. Et puis, eux autres, ben, ils vont affronter les Eagles de Philadelphie, qui ont battu les Rams 28-22. On va aller voir les commentaires avant d'aller faire le « You can't do that ». Après ça, on me dit que... OK, il parle du commentateur, que celui des Olympiques est fatigué. Celui des Olympiques, moi, ce qui me fascine de lui, c'est quand il décrit le but d'un autre équipe, de l'équipe adverse. Ah, le but.
Ouais, le but.
Hein? Ah oui, ben oui, écoute, c'est un but. Bien sûr, mais tu sais, c'est ça. Ah, le but. Bref, c'est ça. You can do that, on passe ça. I'll have none of your God. You can't do that. You can do that moment de la semaine. Bon, j'ai toujours protégé la LHJMQ, les jeunes. Jamais je vais mettre un jeune de la LHJMQ dans le you can do that moment. Okay? Même LHJMQ, j'y ai jamais été. Là, je vais faire une petite encoche à mes principes. Pourquoi? Parce qu'il y a deux décisions d'arbitre. Pardon. Il y a deux décisions d'arbitre qui... Mais titille un peu, qui me fatigue un peu, on va le dire de même. Okay? C'est pas une question de jugement. Des fois, c'est une question de règlement. OK? Bon, on va regarder là, puis regardez bien, premièrement, quand un arbitre annonce un but, il siffle, donc le jeu est supposé arrêter. Mais là, l'arbitre, là, il colle le but, puis le but, il n'a pas eu lieu encore. Okay? Puis dans il y a deux séquences, puis dans l'autre séquence, ben c'est un but déplacé. Bref, on regarde ça. OK, là, c'est ça. Fait que là, regardez, vous les avez vus, là, il commençait à. On va le voir plus au ralenti, là. OK, mon gars, ben. Fait que là, que cette aïeule ne pogne la poque, elle n'a pas rentré, là. Hop, il garde. Puis, si, il collait le but avant que ça arrive. Bon, elle est rentrée dedans après, sauf que techniquement, quand tu cales le but, c'est parce que tu l'as sifflé. Et, il était mal placé, puis c'est en plein ça. Puis là, ben, le deuxième but qu'on voit ici, regarde, le but est déplacé. Le but est déplacé, puis oh, il score, et le but est bon. Ils ont quand même accordé ce but-là. Bon, est-ce que ça aurait changé quelque chose à l'issue du match? Non, parce que bon, c'est un but de chaque côté. Les Foreurs auraient quand même emporté, sauf qu'à part à place que le score aurait été de 6-5, ça aurait été de 5-4.
2-2, voilà, qui viennent de scorer, puis une bataille entre Jack Hay et Matt Remp. Anderson blessé aussi. Là, j'ai vu.
OK. Bon, ben je lisais juste le commentaire de Mathieu qui dit « Celui des Sea Dogs est encore pire que celui des Olympiques quand il s'agit de l'autre équipe, Marc-Claude Léveillé. » Fait que ça, le message s'adressait à moi. Bon, ben, Mathieu, t'as été exposé. C'est ça. Bref, fait que le You Can Do That Moment de la semaine, c'était ça. C'était juste, une incompréhension, finalement. Regarde, je suis loin de blâmer les arbitres. C'est juste que, il me semble que là-dessus, côté règlement, ça laisse à désirer. Mais bref, regarde, il n'y a pas eu de c'est pas une punition qu'il n'a pas appelée, là-dessus. Ça va vite. Puis, on ne voit pas tout. Je sais que j'en sais quelque chose. J'en ai manqué beaucoup. Dans ma vie. Bon, c'est OK. Hey, on va passer aux trois étoiles. Les trois étoiles sur la bande de la semaine. Donc, la troisième étoile de Third Star, Camille Jean Tondreau. La deuxième étoile de Second Star, Michael Levasseur. Michael qui est allé faire des entrevues avec l'extrême, avec l'entraîneur de l'extrême, une équipe de Ligue nationale de hockey-ball. Bref, et la première étoile, The First Stars, Mathieu Duguay et Isaac Boucher qui ensemble coupent les Olympiques de main de maître. Fait que sur ce, les boys, moi je vous dis bonsoir. Il y a une game de hockey, il y a une game de football, il y a du stock à la TV. On va aller regarder ça.
Yes!
Salut!
Salut!
Avant de partir, j'ai un petit You Can Do That, moi aussi. Je sais, ça doit pas être cette semaine. Je ne vais pas viser genre du monde en particulier, mais une petite histoire, notre ancien goaler des Foreurs.
William McBurn. Ouais.
C'est inacceptable.
Les partisans.
Le traitement que les partisans lui réservent, c'est inacceptable. C'est très irrespectueux. Faut arrêter ça. Le hockey, c'est un beau sport. C'est un sport. On joue au hockey. Au début, on est là pour s'amuser. C'est inacceptable.
Je vais parler de mardi dans le mille à 19h30. Ils vont parler du début de saison dans la LPHF. Jules Renaud vont être en place. Le deuxième épisode depuis le retour des fêtes. Ça a été un épisode très intéressant. Le dernier épisode, je pense qu'il a duré quasiment une heure, je ne me trompe pas. Fait que good job les boys. Puis j'ai pas d'invité à annoncer pour la semaine prochaine parce que ça ne sera pas dimanche. Je pense qu'on s'est dit mercredi, Zach. Je suis sûr. 29. En tout cas, on va s'en reparler. Fait que, n'oubliez pas de vous abonner, partager, puis on se dit à bientôt. Salut.
Des anecdotes, les joueurs sont tous réunis. Faut partager, on veut entendre votre avis.